Bonjour, alors nous vous parlons depuis le passé parce que pour nous on est le dimanche 8 novembre et il est 19h17, ça fait 1917 vous noterez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Luc n'a pas encore parlé sur TF1.
Voilà, donc on sait pas encore ce qu'il va dire fatalement.
Donc on va pouvoir faire des pronostics et Usul du futur viendra nous corriger, voir si on a vu bon.
Bof bof, mais enfin allez-y les BG, vous êtes magnifiques.
Merci.
Il va probablement annoncer sa candidature. Il va probablement annoncer un nouveau mouvement, enfin je sais pas si t'y crois toi.
Bah en tout cas c'était l'info était dans Marianne, apparemment il va lancer un nouveau mouvement. Alors, pronostic sur le nouveau mouvement?
Sur le nom,
ouais.
République solidaire?
Ouh, ouais. Moi, je pense qu'il va rester sur le truc de fédération populaire, parce que s'il veut faire un nouveau mouvement, alors que le mec, il arrive avec le Front de Gauche en 2012, ouais. Ensuite il fait les Insoumis, ensuite il fait le... Voilà, le nouveau truc, je pense que ça va être la fédération populaire ou un truc comme ça. Je pense qu'il y aura populaire. Peut-être un truc avec le monde d'après.
Ouais, le monde populaire.
Mais ça, et vous rappelez, hein, Emmanuel Macron, il avait appelé son truc En Marche parce que ça faisait EM comme Emmanuel Macron.
C'est vrai.
Hein? Donc JLM, ça fait...
Je lance un mouvement.
Bon, alors est-ce qu'on va pouvoir sauver Noël? C'est la question que tout le monde se pose.
En tout cas, moi, je pense que c'est mort. Hein. Puis je pense aussi que tout le monde le sait.
Oui, enfin, c'est ce que je pense aussi. Hein. À mon avis, Noël en famille, c'est mort.
Puis est-ce que ça respecte vraiment la laïcité, Noël?
Bah oui, il y a de l'alcool.
Oui, donc c'est mort. Hein. Faites votre deuil. Hein. Tout ce que vous aurez à Noël, c'est un point sur les lits en réanimation, des courbes et tout, présenté par Olivier Véran et Jérôme Salomon. Mais estimez-vous heureux, parce que moi, de mon temps, on avait juste une orange. Figurez-vous qu'au-delà de notre petit plaisir, bah, il y a d'autres réalités à prendre en compte.
Bah oui, il y a les libraires, par exemple. Hein, parce qu'on adore lire dans ce pays. Mais putain, mais j'adore lire, mais je veux juste un dernier livre, s'il vous plaît, un petit livre, là, pour le lire. Juste une dernière fois, un livre, là.
C'est pas ça, le truc à prendre en compte.
Okay.
Non, il faut prendre en compte la réalité de nos hôpitaux.
Quoi?
Elle est là, la réalité de nos hôpitaux! Elle est là, la réalité de nos hôpitaux! C'est ça la réalité de nos hôpitaux!
Ah, mais c'est le discours de Véran.
Oui, c'est ça. Mot pour mot.
Elle est là la réalité de nos hôpitaux! Elle est là la réalité de nos hôpitaux! C'est ça la réalité de nos hôpitaux!
Vas-y, essaye toi.
Ok.
C'est ça la réalité de nos hôpitaux! C'est bien.
C'est ça la réalité de nos hôpitaux!
Bah ok, mais pourquoi il s'énervait là? C'était pour les librairies, les petits commerçants qui voulaient rouvrir?
Non, bah voilà, tout le monde se moque d'Olivier Véran là, les hôpitaux! Mais personne s'intéresse à ce dont on parlait à ce moment-là à l'Assemblée. Personne? Non. Car Jean Massier écoute et commente pour nous ces débats parlementaires sur sa chaîne Twitch, qui s'appelait avant Acropolis, mais qui s'appelle maintenant Jean Massier. Donc voilà, écoutons ensemble l'analyse que nous a offert Acropolis.
La majorité n'a pas réussi à empêcher l'adoption d'un amendement, de plusieurs amendements d'ailleurs, de l'opposition, des oppositions, qui ont voté en faveur du raccourcissement de l'état d'urgence sanitaire, ou plus exactement de l'obligation faite au gouvernement de se représenter devant le Parlement plus tôt que ce qu'il avait prévu.
Cette nuit, l'Union nationale a volé en éclats.
L'idée c'est quoi? C'est pas de réduire le temps de l'état d'urgence. C'est de dire au gouvernement, ok, vous voulez prolonger l'état d'urgence, mais vous devez revenir régulièrement devant le Parlement pour discuter avec les députés, débattre et nous expliquer pourquoi vous prolongez cet état d'urgence.
À l'instant T, il se retrouve un peu con à être minoritaire et donc voilà, et d'où la colère en fait. Non seulement d'un côté, t'as eu la colère du ministre.
C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez mal entendre, sortez d'ici.
Qui était dirigé contre l'opposition, mais qui en réalité est une colère interne. C'est on a merdé. Là, c'est mauvais. C'est on a merdé. Et en même temps, une jubilation de l'opposition. L'opposition jubile.
Mais quand même, Véran, il est peut-être sincèrement ému. Il a vu des patients intubés le matin même.
Oui, ils sont allés avec des caméras et avec Jean Castex dans un service de réanimation pour nous montrer des jeunes intubés, pour qu'on prenne tous au sérieux vraiment le Covid, peu importe les générations.
Un patient qui a 27 ans.
27 ans.
Voilà, c'est Quotidien qui suivait Jean Castex et Olivier Véran. Écoutez, là, Jean Castex, il est à fond, il veut qu'on voit les cas. Et donc Castex était accompagné d'Olivier Véran qui en effet a pu constater de ses yeux quelle était la réalité dans nos hôpitaux.
C'est ça la réalité des hôpitaux.
C'est bon.
Une patiente qui est jeune de la réanimation,
il
y a 35.
Combien?
35.
Hein. 37. Voilà. Sont des patients qui ont des comorbidités à la base ou
Ah ouais, mais ça fait sérieux quand Véran il dit comorbidité là.
Ah ouais, bah il est médecin, hein. C'est pas comme Castex qui est là. Alors montrez-nous les malades là, ils sont où là? Il a quel âge le gros là? Voilà, donc la colère d'Olivier Véran n'est sans doute pas feinte, d'autant plus que là on est vraiment devant un mur, la situation est gravissime, donc il faut prendre des mesures. On se met à sa place, ça doit pas être évident.
Et on va même aller plus loin parce qu'on a regardé un débat sur LCI dans lequel il y avait un député En Marche qui disait des trucs pas trop cons. On a même eu de l'empathie pour lui, on va vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Frédéric Descrozailles, et puisqu'on ne le connaissait pas, on a demandé qui c'était à notre expert, hein, Jean-Paulis d'Acromassier. Alors c'est qui Frédéric Descrozailles?
Je ne connais pas Frédéric Descrozailles, ça ne me dit vraiment rien. Tu vois, il fait partie de ces députés de la nouvelle majorité, ils ont beau être élus depuis 3 ans. Je ne connais pas ce monsieur.
Ah bah super, c'est Acropolis et il connaît même pas tous les députés. Bah moi je me désabonne si c'est ça. Nul. Voilà, nul.
Désabonnez-vous tous.
Voilà.
Bon, le thème du plateau sur lequel est intervenu le député inconnu, Frédéric Descrozailles, c'est la bataille qui opposait la semaine dernière les élus locaux et l'État au sujet de l'ouverture des petits commerces. Une problématique brillamment synthétisée par ce journaliste d'LCI.
Bon, Frédéric Descrozailles, l'État aveugle face au bon sens des maires et des élus.
Non mais de grâce, sortons de là par le haut. Enfin, moi, ça me navre. Si on peut prendre un petit peu de hauteur, est-ce qu'on est en train de traverser ? On est frappé par un fléau. Un fléau, il n'est pas équitable quand il frappe. Non, c'est pas juste ce qui se passe. Il y a les hospitaliers qui sont crevés, les enseignants qui sont inquiets, les personnes fragiles qui sont anxieuses. On ne sait pas quand on va en sortir. Il faut miser sur le fait que les courbes s'inversent d'ici 15 jours, mais si c'est pas le cas, on va durcir. J'ai peu d'expérience politique, je n'ai jamais ressenti à ce point-là à quel point la politique, c'est le choix entre deux pires.
Vous avez vu, c'est ouf, hein. Il a vraiment l'air abattu, il a vraiment l'air désolé.
Ouais, mais je sais pas vous, mais nous, c'est la première fois qu'on voyait un député LREM qui avait l'air sincère et qui utilisait pas d'éléments de langage.
L'heure est grave.
On doit protéger les Français, il faut éviter qu'il y ait un nombre de morts. On doit absolument, comme une obsession, éviter qu'un médecin ait à choisir entre deux personnes qui risquent leur vie. En même temps, on fait des suicidaires et des dépressifs par milliers. C'est désastreux ce qu'on est en train de traverser, il faut juste tenir. On va pas recommencer à monter l'État contre les maires. Les maires, on en a absolument besoin. L'État ne sait pas gérer la proximité.
Alors oui, souvenez-vous, certains maires avaient promulgué des arrêtés municipaux illégaux, autorisant leur commerce à ouvrir malgré le début de confinement, là. Et ben, mine de rien, ça avait relancé un vieux débat.
Ouais, un vieux débat qui intéresse surtout les étudiants de Sciences Po, hein, on va pas développer ici.
Mais si vous voulez qu'on développe quand même, inscrivez-vous à notre webinaire en ligne. Profitez de ce confinement pour vous cultiver. Comment s'appelle notre webinaire en ligne ?
Alors, ça s'appelle « Démocratie du blocage » ou « Blocage de la démocratie », depuis la libération jusqu'aux dernières grandes étapes de la décentralisation, pouvoir et territoire, une dialectique conflictuelle, vivre et se réinventer au temps de l'archipélisation de la décision publique. Et c'est 200 euros.
Mais avec ça, vous aurez votre concours d'entrée de Sciences Po.
Mais on va revenir sur notre député Descrozailles. Ce qui nous a étonné, c'est son honnêteté, sa capacité à reconnaître qu'ils sont dans la merde, hein, et qu'on l'est tous. D'ailleurs, Noël, lui, il va nous dire si c'est jouable ou pas.
Mais parce que dans 4 semaines, moi, si je comprends bien ce que nous dit le docteur Sénéquier, finalement, on aura une vision assez limitée encore de l'impact de tout ça. Peut-être ça commencera à poindre, mais il faut se préparer à plus dur.
Il faut l'avoir en tête. Vous savez, moi, je pensais que ça n'était pas pensable, ce qu'on a fait sur le plan budgétaire. Je pensais qu'un deuxième confinement n'était pas pensable non plus, tellement les dégâts. La frontière entre le possible et l'impossible, elle a explosé depuis ce qui nous arrive, donc je ne sais plus.
Voilà, hein, il est au fond du gouffre, notre député LREM. Il sait plus et il a l'air sincèrement de plus savoir.
Mais ça ne m'étonne pas, cette sincérité ne m'étonne pas. Je l'ai vu chez beaucoup de députés de la majorité aussi. Les doutes s'expriment moins facilement sur les plateaux de télévision, donc on les entend moins souvent, mais les députés de la majorité en off témoignent beaucoup d'une vraie difficulté et d'une vraie crise de sens.
La crise de sens, là, c'est qu'il y a bien eu un bras de fer entre l'exécutif et les maires. Mais les députés au milieu, ils servent à quoi ?
Oui, c'est pour ça qu'ils ont voulu récupérer un peu de leur pouvoir en avançant la date de fin de l'état d'urgence pour forcer le gouvernement à venir le rejustifier devant eux dès décembre.
Bah ouais, d'ailleurs, c'est pas les députés LR seulement qui ont bloqué. Il y a Jean-Luc aussi qui était d'accord.
Je trouve que tout ça est conforme à ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire le sourire aux lèvres et aux applaudissements généraux. Un régime autoritaire de type particulier. Nous sommes, un régime autoritaire.
Vous confiez au gouvernement le droit de suspendre ceux des citoyens et vous ne cherchez même pas à ce que nous ayons un débat régulier à l'Assemblée nationale.
Merci,
sur ces circonstances.
Je
trouve, comme le président Mélenchon,
merci,
que là, il y a une dérive qui finit par caractériser un autoritarisme déplacé.
Bref, tout le monde est contre l'exécutif qui a voulu tout gérer tout seul pendant la crise.
Bah oui, ils ont voulu tout décider tout seul, bah du coup ils se retrouvent dans la merde tout seul.
Tout seul.
Ils s'y sont foutus tout seuls et en même temps les institutions sont faites de telle manière qu'en période de crise, on a prévu des dispositifs qui permettent justement de suspendre entre guillemets les processus démocratiques habituels pour permettre au gouvernement d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour diriger seul le temps de la crise.
Imaginons que la crise dure 10 ans. On fait quoi ? On suspend la démocratie pendant 10 ans ?
Bah c'est ça. Ouais, ils font style que la démocratie, en fait, c'est gênant, c'est chiant. Si on peut l'enlever en temps de crise pour mieux gérer, c'est pas plus mal. Alors que à l'inverse, c'est en temps de crise que la démocratie peut être très utile.
On est début novembre. Si ça se trouve, il va faire froid jusqu'en mars. Donc il faut éviter les déplacements. Quand plus personne ne circule, le virus, il n'a pas de patte de derrière, il n'a pas d'aile dans le dos, il ne circule plus non plus. Donc il faut limiter les déplacements. On permet aux enfants d'aller à l'école et aux gens de travailler pour éviter d'avoir trop de casse sociale. et économique.
Au moins, c'est clair. Donc nous, on le croit. On croit qu'il est sincèrement déchiré entre son amour pour le marché et sa faiblesse face à la souffrance humaine. C'est un être humain, après tout. Même s'il est né à Neuilly-sur-Seine, il y a un petit cœur qui bat sous ce costume à 7000 balles.
Seulement, voilà, bon, c'est un bourgeois.
Ah!
Mais oui, les bourgeois, on peut pas leur faire confiance.
Oui, mais attends, on a dit qu'il était sincère.
Ah oui, mais il est aussi sincèrement bourgeois.
Les bourgeois, ils en connaissent des vieux et des gens à la santé fragile. Donc on pourrait éventuellement leur faire confiance pour arbitrer entre deux mots, la souffrance des vieux et la souffrance du marché. Mais ces gens-là partagent une vision du monde qui fait qu'on peut légitimement s'attendre à ce qu'une partie du monde social soit lésée. Moi, je leur fais pas confiance sur ce qu'ils vont proposer pour les pauvres, les jeunes, les précaires. Je suis persuadé que leur choix cornélien d'aujourd'hui, c'est sur nous qu'ils vont retomber. La dette, on va la payer avec notre travail, les inégalités vont se creuser, l'État va s'appauvrir et les services publics se délabrer encore pendant que les grandes fortunes vont continuer à faire du bénef. Parce que toutes leurs décisions vont dans ce sens. Depuis 4 ans, ils ne savent pas penser en dehors du cadre néolibéral et de ses dogmes. C'est pas de leur faute. Ils sont comme ça. Même celui-là, là, qui a l'air sympa. Mais bon, expliquer, ça n'est pas excuser. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire.
En fait, faudrait un système où il n'y aurait pas que des gens qui pensent tous pareil. Faudrait un endroit où en fait il y a des gens avec des idées différentes, avec des visions du monde différentes qui pourraient débattre entre eux pour trouver des compromis. Alors moi j'imagine qu'on les mettrait par exemple dans une espèce de grande salle en demi-cercle, je sais pas pourquoi mais le demi-cercle ça me parle, et avec des sièges parce que bon les débats ça dure longtemps donc ils pourraient parler entre eux, ils pourraient décider des trucs, et peut-être qu'ils pourraient être élus aussi par...
Mais non c'est bon, vous avez compris un peu où on voulait en venir. Alors tout ça pour dire que la démocratie c'est pas juste pour faire chier quand on fait gnagnagna la démocratie, c'est parce que c'est un système qu'on a choisi collectivement parce qu'il nous permet de prendre de meilleures décisions. Ça permet de faire en sorte qu'on n'écoute pas toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes.
Au nom de quoi devrait-on suspendre le jeu démocratique en temps de crise? Surtout quand la crise s'éternise.
Bah oui, au contraire, le gouvernement doit faire des choix terribles et il aurait tout intérêt à y associer ses adversaires.
Et ça ne m'étonne pas que les députés s'énervent que le gouvernement les empêche de discuter de l'état d'urgence et des mesures à prendre et des mesures prises. Et je comprends du coup qu'ils votent des amendements pour dire mais en fait... Nous aussi, on veut le pouvoir. En fait, on veut partager avec vous la responsabilité.
Parce qu'on va vous demander des comptes. L'histoire va vous demander des comptes. Les citoyens vont vous demander des comptes. Et vous avez tout intérêt à partager cette responsabilité. D'autant plus que les décisions prises, si elles le sont démocratiquement, déjà, elles seront plus justes. Et ensuite, elles seront perçues comme moins arbitraires. Parce que c'est ça l'autre vertu de la démocratie. C'est que la démocratie permet de produire davantage de consentement à l'autorité. Et pour ça, vous êtes les plus nuls qu'on ait jamais vus. Hein ? C'est ça aussi la réalité de l'opinion publique.
C'est ça !
C'est ça la réalité de la démocratie !
C'est ça !
Et si vous voulez pas l'entendre, vous sortez ! À lundi prochain !
Bon bah on s'est un peu éloigné de Noël avec notre sujet là.
Bah c'est Noël qui s'éloigne surtout, hein. Ça risque d'être en juin du coup.
Ouais, comme les Australiens qui font Noël en été.
Ah oui sans doute, oui, bah oui, parce que c'est tout inversé ça.
Ouais. Ouais. Mais comment on explique aux enfants pourquoi il n'y a pas de Noël ?
Bah parce qu'on dirait que c'est la faute à Macron.
C'est vrai que c'est un peu... Ça marche pour tout, en vrai.
Bon, voilà, tu expliques, écoute, Jean-Kévin, pas de Lego Star Wars, c'est la faute à Macron. Mmh. On va radicaliser les gamins comme ça.
Bah ouais.
Enfin, pas trop, parce qu'en ce moment...
Oui, après, ils vont au commissariat.
Et tout ça.